Bienvenue, chers membres du Mistral Social Club. Nous nous retrouvons pour un nouveau numéro d'Imagine avec Bruno Montel, auteur du livre On peut le faire et cofondateur de l'association Pays Salonnais en Transition. Bonjour Bruno.
Bonjour Antoine.
On entend souvent dire que des initiatives, des projets voient le jour par l'intelligence collective. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est l'intelligence collective ? On réfléchit à plusieurs, c'est ça ?
Bonjour à toutes et tous. Imaginons que nous souhaitions monter ensemble un projet ou trouver une solution à un problème. Que nous soyons un petit groupe d'individus, d'une dizaine de personnes, ou une communauté de plusieurs milliers, une entreprise, collectivité, association, nous pouvons aborder cette recherche de différentes façons. Par exemple, on peut désigner un chef et le laisser tout organiser tout seul. Ou bien se référer à un groupe d'experts qui va nous pondre un mode d'emploi détaillé qu'il suffira d'appliquer. On peut aussi demander qui veut proposer une motion, puis voter et appliquer celle qui aura obtenu la majorité des suffrages exprimés, qui ne représente jamais la majorité absolue d'ailleurs, hein, rappelons-le au passage. Ces modes de décision sont les plus employés en entreprise pyramidale ou en démocratie, et ça ne marche pas toujours bien, chacun a pu s'en rendre compte dans son vécu sociétal. L'intelligence collective, pour répondre à votre question, part d'un autre postulat. Premièrement, nous avons tous des idées. Chacun d'entre nous a une vision du projet en fonction de son histoire, de son expérience ou de son ressenti. Deuxièmement, si on met ensemble toutes ces idées, ça fait beaucoup d'idées. Et troisièmement, il se pourrait bien que naisse une nouvelle idée par le brassage de ce que chacun apporte. Une idée que personne n'aurait eue tout seul. On dit que ces idées du collectif sont plus grandes que la somme de toutes les autres. C'est en quelque sorte le 1 plus 1 égale 3 ou même 1 plus 1 égale 11.
C'est ce 1 plus 1 égale 11 qu'on appelle l'intelligence collective.
Oui, c'est cette capacité à inventer, à créer, à innover, à faire naître des idées par l'intelligence d'un groupe. Il ne s'agit pas de collecter toutes les idées, de les lister et d'en faire le tri. Non, en intelligence collective, il se passe toujours un moment où quelque chose surgit d'on ne sait où. Un peu comme dans les dessins où une ampoule s'éclaire toute seule dans une bulle. Tadam ! Voilà la nouvelle piste à laquelle personne n'avait pensé. C'est bien cela, Colette Jevert, coprésidente de Vision 2021. Bonjour Colette.
Bonjour. Oui, effectivement, l'intelligence collective a un grand pouvoir multiplicateur. C'est ce dont Bruno vient de parler. Et en général, ce qu'on constate, c'est qu'en investissant un peu de temps au début pour justement faire ce collectif, mais on va être ensuite beaucoup plus efficace et ça va aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que si on était resté sur les modes traditionnels. Ce qu'on peut aussi dire sur l'intelligence collective, c'est qu'au-delà de cet aspect créativité, ça permet vraiment d'aller sur des sujets qui comptent et de les aborder en profondeur, chacun avec ses perceptions différentes, et de faire face à la complexité du monde d'aujourd'hui, parce qu'on a besoin d'être vraiment beaucoup plus nombreux pour appréhender cette complexité.
Colette, pouvez-vous nous présenter votre association Vision 2021 ?
Oui, Vision 2021 est une association qui a pour objectif de diffuser l'intelligence collective au service d'un monde meilleur. Il y a chaque année à peu près une centaine de membres dans l'association qui sont des professionnels de l'accompagnement, mais aussi plein de personnes qui ont un métier inscrit dans la société et qui viennent parce qu'ils sont très intéressés par l'intelligence collective. On peut avoir des personnes qui sont dans l'enseignement, des experts comptables, vraiment des profils très variés. Dans notre association, il y a surtout beaucoup de passionnés. Et c'est avant tout un lieu d'expérimentation où on peut vraiment incarner ou tenter d'incarner l'intelligence collective quand on travaille ensemble. Donc on fonctionne en cercle, justement pour que ce ne soit pas pyramidal. On va pas décrire là, mais si ça vous intéresse, il y a pas mal de littérature autour de l'holacratie notamment. Et dans nos différents cercles, on travaille sur notre professionnalisation, sur nos ressources, la communication, on a différents groupes de travail. Notre ADN, qu'est-ce qui fait qu'on conserve notre part d'intelligence collective? Quels sont les processus qui vont être importants pour ça? Et puis, nous avons des cercles événementiels, notamment nous avons une université d'été qui permet d'aller explorer de façon très conviviale l'intelligence collective sur un week-end, ce sera fin septembre dans le Var. Et un congrès à peu près tous les 18 mois. Le dernier avait rassemblé plus de 600 personnes au Parc Chanot. Le prochain sera le 2 juillet à Lyon.
Mais qu'est-ce qui fait que l'intelligence collective améliore le fonctionnement d'un groupe ou d'un projet? Et son utilisation est-elle répandue?
Alors tout d'abord, l'intelligence collective, c'est vieux comme le monde. On en a tous fait sans le savoir. Mais en général, quand ça se passe, cette partie de magie où on se dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tiens, on a changé d'idée. » Il y a quelqu'un qui dit « L'âme ». agi, la magie, c'est un peu ça. Il y a quelque chose qui s'est passé comme une âme collective qui s'est construite. On l'a vécu, mais comment on fait pour que ça se passe de façon volontaire et qu'on arrive à le faire ? Eh bien, pour ça, il va y avoir un certain nombre de choses à suivre. Il y a des processus qui sont assez codifiés, mais qui laissent plein de liberté. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est répandu. Ça peut être très ponctuel. Il y a des organisations qui vont faire appel à ça, par exemple. Je sais pas, moi, ils veulent réfléchir sur des producteurs bio dans un département et les faire travailler ensemble, imaginer de nouvelles choses. Ils vont faire un forum ouvert. Il peut y avoir des entreprises qui vont faire appel à ça pour des séminaires ou pour recueillir les idées, échanger avec l'ensemble des personnes de l'entreprise. Mais vous pouvez aussi avoir des organisations qui fonctionnent comme ça dans la durée. Il y a même, dans certains endroits, eu des ministères qui ont fonctionné comme ça. Et puis, pendant le confinement, on a même eu des personnes de notre association qui ont commencé à faire des règles de fonctionnement en intelligence collective avec leurs enfants, leurs familles, et qui ont vraiment réussi à faire ça pendant le confinement. Donc, vraiment, on peut le faire dans plein d'endroits différents. Ce qui va être important pour faire ça, c'est qu'en fait, on va d'abord se connecter les uns aux autres. Et quand on dit se connecter, c'est je viens pas juste avec mes idées. Je viens avec qui je suis, avec mes émotions, avec mon humeur du moment, avec mes intentions. On va aussi faire très attention à tout ce qui est synergie, parce que si on est tous des clones ensemble, ça va pas donner grand-chose. Ce qui est intéressant, c'est la différence. Donc comment je suis prêt moi-même à intégrer la différence de l'autre ? Comment l'autre va écouter mes contributions ? Et de tout ça, va émerger en général quelque chose de nouveau ou de beaucoup plus profond que ce qu'on aurait fait tout seul. Et dans l'intelligence collective, ce qu'il y a de notable aussi, c'est que ce n'est pas qu'un monde de bisounours où on ne parle que de choses super fun, super agréables. En fait, très souvent, il y a aussi toute cette intelligence d'aller parler, mais dans un cadre qui est bien posé, serein, de choses qui fâchent, de choses qui grattent, de choses non résolues. On va avoir une vision différente des problématiques et qu'on va pouvoir réussir à faire autre chose ensemble.
Colette, vous pouvez nous donner des exemples ?
Oui, tout à fait. Des moments où on a besoin de créativité autour d'un sujet, on va faire ce qu'on appelle un forum ouvert. Donc un forum ouvert, en fait, il y a une question qui a été bien réfléchie. On se dit comment on peut faire pour que cette question soit la plus générative possible. Et autour de ça, eh bien, les gens vont venir poser des sujets et dire « moi, j'aimerais bien travailler sur ça ». Et donc, il y a un certain nombre de sujets qui sont posés. Et les participants vont utiliser la loi des deux pieds, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller où ils veulent et ils peuvent rester le temps qu'ils veulent. S'ils veulent, ils restent à un endroit et ils contribuent. Mais si à un moment, ils sentent qu'ils ne contribuent plus, ben ils vont à un autre endroit. Et ça fait ce qu'on appelle un peu de fertilisation, de pollinisation. Et en général, ils sortent des projets qui sont très riches de ce genre d'échange. Après, on peut avoir des choses comme de la gestion par consentement. Si vous prenez un projet, un petit groupe a travaillé sur un projet, et puis le projet, ils vont le présenter à leurs collègues. Et puis les collègues, ils vont dire « Ah ouais, mais t'as pensé à ça, parce que quand même, ça, ça serait mieux, et puis il manque ça, et puis quand même, ça, ça serait plus simple. » Alors le groupe projet est super content, il a investi plein d'énergie, et puis il se prend plein de baffes, là. Alors que dans la gestion par consentement, on va pas du tout faire comme ça. On va déjà dire tout ce qu'il y a de positif. Quand on n'a pas compris, on va poser des questions de clarification, parce que souvent, les objections qu'on a, ben, c'est qu'on n'a pas bien compris les choses, donc on va poser ça à plat. Ensuite, on va pouvoir poser des objections, et quand il y aura des objections, des choses à revoir, on va y travailler ensemble. Ça, ça apporte beaucoup de paix, et ça fait que le projet qui a été avancé par quelques-uns devient finalement le projet de tous. Et on peut avoir des modes de participation citoyens où on va faire de la gestion par consentement. Par exemple, s'il y a des choses qui sont sur un quartier et qui concernent les habitants, on peut très bien utiliser ce genre de processus.
Bien, ben justement, ça fait le lien avec la question suivante, parce que on est ici dans la transition, c'est le thème de cette émission. Alors, quel lien voyez-vous entre intelligence collective et transition ? Est-ce qu'il y a eu des expérimentations sociétales ?
Alors, le premier lien, c'est déjà que la transition, on l'a vu dans l'actualité sur les deux dernières années, c'est quelque chose de très complexe. C'est-à-dire qu'une mesure qui peut sembler positive, aller dans le bon sens, peut rencontrer des tas d'opposants. Donc la vraie question, c'est comment on fait la transition ensemble ? Comment, au lieu de faire du « ou », on va faire du « et ». Et ça, c'est pas toujours évident. Donc à cet endroit-là, l'intelligence collective a vraiment sa place pour appréhender cette complexité et vraiment travailler ensemble. L'autre chose aussi par rapport à la transition, c'est que il y a des gens qui sont convaincus depuis très longtemps, il y en a d'autres qui ont peur, et du coup ils savent pas trop quoi faire avec cette peur. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Entre les espoirs, la peur, et on voit que très souvent le moteur décisionnel ça va être les émotions. Donc nous, en intelligence collective, on fait toujours très attention à ces émotions. Et d'ailleurs, dans nos rencontres, on commence souvent par ce qu'on appelle un petit tour météo de connexion. C'est quoi mon émotion du moment ? Donc autour de la transition, ça va aussi être très important de recueillir ces émotions. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces émotions ? De quoi elles parlent ? Elles parlent de moi, elles parlent des autres, elles parlent du monde. Et on relie tout ça. Et donc, pour ça, ça va être vraiment clé. Et autour du Pays Salonais, on a eu une belle expérience dans un partenariat entre tout d'abord Pays Salonais en transition et puis Vision 2021 et puis plein d'autres associations de tout le Pays Salonais qui ont rejoint le mouvement du pacte de transition. On a travaillé en organisant des rencontres citoyennes pour que les personnes du Pays Salonais s'approprient, adaptent toutes les mesures qui avaient été travaillées au niveau national pour les élections municipales et proposer aux listes candidates une vingtaine de mesures. Alors, ça dépendait de ce que les municipalités, des listes étaient prêtes à prendre, mais des mesures qui travaillaient sur la solidarité, qui travaillaient sur l'écologie et qui travaillaient sur tout ce qui était gouvernance participative. Eh bien, quand on a travaillé ça ensemble, on a commencé par bâtir ce collectif et on a fait appel à de l'intelligence collective. Et on a vu qu'au niveau du collectif, petit à petit, ça a noué des liens, des relations qui ont fait que ça a donné beaucoup d'énergie et que les idées de quelques-uns qui étaient dans un village inspiraient les autres et qui se disaient « Ah ben s'ils ont fait ça, ben tiens, nous aussi on peut, même si on n'est pas très nombreux. » Et au total, eh ben, ce qu'on peut dire, c'est que en France, à un moment, il y avait 400 pactes signés, ben, le Pays Salonais en a recueilli une vingtaine. Et c'est pas un vingtième de la population. Ce qui veut dire que grâce à ces processus, on a été capable de faire aller le pacte beaucoup plus loin. Autre exemple, c'est la Convention citoyenne pour le climat qui a organisé les travaux de 150 personnes tirées au sort sur toute la France. Ils ont eu plein de matières avec des experts qui sont venus, mais beaucoup de l'animation, quand on lit en filigrane, est faite en intelligence collective. Et c'est ça qui permet justement, dans leur diversité, d'être allés vraiment au fond. Et les gens qui ressortent de là, mais ils ont une vision de l'enjeu climatique, de l'enjeu de la transition qui est complètement intégré, incorporé, parce qu'ils ont aussi entendu toute leur voix d'un échantillon de la population française qui était au départ très divers, et ils ont réussi à travailler ensemble, les 150, à y passer des week-ends, à y investir énormément de temps. Donc l'intelligence collective, ça crée aussi beaucoup de motivation, parce que chacun finalement trouve sa place. Je suis là, avec qui je suis, et je contribue au service du nous. Et c'est ça. Ça, c'est l'intelligence collective qui le rend possible.
On est vraiment dans le thème complet de ce magazine qui s'appelle « Imagine ». Et alors, qu'est-ce qu'on imagine pour la période actuelle et pour les mois et années à venir en intelligence collective ?
Alors, effectivement, on entend beaucoup de choses. Il y a des solutions techniques qui sont proposées, mais on sent bien qu'on a besoin de ce lien, que pour refaire société autour de ce projet qui est absolument indispensable, il va falloir qu'on parle à d'autres niveaux, avec plus de conscience, en intégrant toutes les personnes, en intégrant ceux pour qui c'est difficile, et c'est difficile pour à peu près tout le monde. Et du coup, l'intelligence collective va avoir sa place par la puissance que ça peut donner au projet de transition.
Merci Colette Jevert, coprésidente de Vision 2021. Merci Bruno. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain numéro d'Imagine. Toute l'équipe du Mistral Social Club s'associe à moi pour vous transmettre ces ondes positives. À très vite sur le Mistral Social Club.